9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran, vous salue mes amis, je suis ravi de vous retrouver. Alors je ne sais pas mon cher Philippe, ce qui a été pour vous le fait le plus marquant de la semaine, mais...
J'ai deux, trois trucs.
Alors, pour ma part, je ne sais pas si on sera sur la même longueur d'onde, mais pour ma part, cette semaine a été marquée quand même par l'intervention de notre président de la République, qui a manifestement considéré que dans ce pays, l'urgence absolue était de lutter contre l'islamisme, les mauvaises langues diront même contre l'islam. Alors, parmi les mesures avancées, on trouve la fin des imams importés du bled. Alors, c'est vrai... C'est pas une bonne nouvelle. Alors pas pour nous, hein, musulmans de France, nous on s'en fout, mais pour les imams qui souhaitaient venir s'incruster sur le territoire français, les boules les gars, vous avez loupé le dernier train pour le pays du bonheur. Bah oui, il y a encore des étrangers qui pensent que le bonheur est en France, c'est dire le désespoir de ces personnes. Mais je dois reconnaître que cette mesure a toutes mes faveurs. Ah voilà, c'est une bonne mesure. J'ai eu une trop mauvaise expérience avec ces imams en carton. Il y a quelques années... Mes gamins me disent « Ouais, papa, on aimerait apprendre l'arabe. » Bon, ok, je dis, je vais chercher un établissement, un prof. « Non, non, papa, on a un pote, il apprend l'arabe à la mosquée, on va aller avec lui. » Bon, déjà, je trouve ça suspect. Retour du premier cours d'arabe. Hein. Alors, les gars, ça s'est passé comment? Oh, c'était dur. En plus, il y a un contrôle samedi prochain. Alors, carrément, j'ai un contrôle sur quoi? Vous avez fait une heure d'arabe. Déjà, la méthode pédagogique un peu chelou hein, de l'imam. Et les gamins me disent que pendant le cours, le prof, alors, il te parle qu'en arabe. Tu me diras, on est là pour apprendre l'arabe. Mais quand même, il écrit au tableau qu'en arabe, il n'y a pas de traduction. Autoritaire, limite violent. Bon, mes gamins sont largués hein, toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un contrôle. Toutes les semaines, c'est zéro. Alors, à la maison, de temps en temps, je leur dis un ou deux mots d'arabe. Mais moi, je ne parle que français à la maison avec mes gamins. Et en plus, je ne lis pas l'arabe. Je vais voir le prof. Je me dis, allez, Maître Serran, un effort. On va aller le voir. Il va peut-être changer de méthode. Le samedi suivant arrive, je vais voir le prof. Alors déjà physiquement, hein, gueule de chétan, tout maigre, barbe pleine de poussière, flottant dans sa jalaba dégueulasse. Ah, du billah, c'est toi qu'enseigne à nos enfants? On est là, salam alaikum, salam. Je lui parle donc de mes gamins. Et il entre dans une longue histoire sur sa méthode d'apprentissage. Et il me dit tout ça qu'en arabe. Je comprends un mot sur deux. Je me dis, merde, le type, il parle pas français, pas un mot, c'est quand même bizarre. Même le type le plus pourrave du bled, il parle un peu français. Lui, rien, je sais pas, ils l'ont trouvé. Il vient en France, il veut pas s'intégrer. J'apprends aussi qu'il a pas l'ombre d'un diplôme hein, qui donnerait une quelconque légitimité pour enseigner. J'ai évidemment décidé de retirer mes gamins des griffes de ce vendeur de couscous. Alors, quand Macron dit qu'il ne veut plus de ces imams périmés du bled, je ne peux être que d'accord avec lui. Alors, il y a des choses critiquables dans les déclarations de Macron, notamment l'emploi du terme séparatisme, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, car c'est le moment de nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui apprend surtout les gros mots en arabe, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Enfin, j'apprends les gros mots en arabe, Maître Serran, parce que c'est vous qui me les, me les apprenez. Donc, alors, comme vous connaissez essentiellement les gros mots en arabe...
Que ça. Est-ce que je suis un bon prof?
Ah ça, il y a des mots que... C'est comme les gosses.
On est d'accord.
Bien, Maître Serran, bonjour, bienvenue, c'est un plaisir de vous voir. Il y a eu un grand moment dans la République ce matin, puisque Maître Serran a claqué une petite bise à Cédric Villani.
C'est vrai. Hein, c'est vrai, et ça m'a fait plaisir.
Beaucoup d'émotions.
Ben, écoutez, je vais vous dire tout simplement pourquoi. Il y a très longtemps, il ne faisait pas encore de la politique, il avait écrit un bouquin sur sa vie aux États-Unis et comment ça se passait là-bas, en sa qualité de chercheur. J'avais à l'époque acheté le bouquin, je l'ai lu, j'ai trouvé ça très sympa. Donc ça m'a fait plaisir de rencontrer Cédric Villani. Et puis vous savez ce que je pense de, de l'actuel maire de Paris. Donc si ça pouvait être lui, ce serait une bonne chose.
Voilà, très bien. Ouais. Parmi les mots très importants que vous m'avez appris en arabe, le mot « sgeg », Maître Serran, et justement l'actualité nous ramène au droit, puisque le sgeg nous conduit directement à l'asile politique, Maître Serran. C'est ça que vous m'avez envoyé comme message. Moi, je n'invente rien. Vous me l'avez inventé. Donc, la France peut-elle retirer l'asile politique et en quoi le statut de réfugié constitue-t-il, Maître Serran?
Alors, non, mais si on commence comme ça, c'est chaud. On fait du droit.
Ben oui, mais c'est vous qui m'avez dit.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Le sgeg conduit à l'asile politique.
C'est vrai, le sgeg peut conduire à l'asile politique.
En l'occurrence, c'est le sgeg de Benjamin Griveaux.
Ouais, c'est le sgeg de Benjamin Griveaux. Alors, j'ai pas vu la vidéo, j'ai pas envie de.
Non, mais.
De voir le sgeg à Griveaux.
Non, mais qui me l'a vu
et... Ah, qui m'a vu le sgeg à Griveaux.
Mais c'est tout. Et après, depuis, elle a été supprimée.
Le Sgag à Griveaux ou
Non, la vidéo.
La vidéo. Ouais. Bon.
Mais Adil Farkan en a un exemple.
Oui, mais je crois qu'il fait une collection de vidéos de Sgag, Adil Farkan. Non, je plaisante, Adil, si tu m'écoutes. Alors, oui, donc pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? C'est quand même assez particulier, cette histoire, indépendamment du côté... j'allais dire drôle pour nous, alors quand on est évidemment Benjamin Griveaux, c'est moins drôle, mais on a entendu les politiques à la suite de ça monter au créneau et dire attendez, on comprend pas, on accueille gentiment une personne qui a sollicité l'asile politique et puis en gros il vient foutre le bordel sur le territoire français, et donc d'aucuns laissent entendre que pour le sanctionner, bah il faudrait éventuellement lui retirer donc ce statut, le renvoyer pourquoi pas en Russie, puisque la France lui a accordé donc l'asile politique par rapport aux difficultés rencontrées par cette personne qui se présente comme un artiste. Alors d'abord, il faut savoir que le statut de qui est attribué à la personne qui sollicite la protection de la France est un statut qui est quand même difficile à obtenir. Ça relève de la compétence d'un service qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et je peux vous assurer que l'OFPRA n'accorde pas l'asile politique comme ça à la légère. Donc il faut qu'il y ait une histoire crédible, il faut qu'il y ait des preuves, et très souvent l'asile politique est refusé. On a même parfois tendance à dire il faudrait venir avec son bras arraché, le poser sur le bureau du service de l'OFPRA pour être pris au sérieux. Donc d'abord, il y a un vrai contrôle pour accorder l'asile politique, et il me semble pas que ce monsieur Pavlensky ait pu bénéficier donc d'un passe-droit. Donc la procédure est carrée par rapport à ça.
Alors justement, quels sont les cas dans lesquels il peut être mis fin au statut de réfugié?
Alors c'est vrai qu'il y a des cas qui sont particuliers. Quand vous demandez l'asile politique, c'est que vous considérez que votre vie est entre guillemets potentiellement en danger. Alors soit par l'autorité étatique elle-même, soit par des groupes qui auraient noyauté le pays. Et donc, pour vous assurer cette protection, puisque votre vie est en danger, donc on va vous autoriser à rester sur le territoire français. Mais c'est sur un temps déterminé. Si demain, je dis n'importe quoi, il y a un changement de régime, si vous étiez hier la cible d'un homme politique au pouvoir et que cet homme politique a disparu, que la situation a changé, il n'y a plus rien qui autorise ou autoriserait la France à vous accorder, en tout cas à vous maintenir cet asile politique. Donc vous pouvez éventuellement retourner, j'allais dire, dans votre pays d'origine sans difficulté. Si vous avez sollicité l'asile politique et que très régulièrement vous allez dans votre pays d'origine, les autorités françaises peuvent dire écoutez, on vous accorde l'asile politique mais vous y allez régulièrement, c'est que manifestement votre vie n'est pas en danger. On considère aussi, et ça c'est légitime, on considère aussi que si vous êtes condamné ou poursuivi pour des actes graves, alors on parle éventuellement de terrorisme, on parle de complot contre la sûreté de l'État, là aussi on peut l'entendre et comprendre que celui à qui vous avez donné asile, s'il essaie de renverser votre gouvernement, et ben dans ce cas-là vous allez entre guillemets tenter de vous en débarrasser, tout ça dans le cadre de la loi évidemment, il s'agit pas de faire ça manu militari.
Alors, et si c'est une attaque contre la démocratie, alors?
Alors, mais qu'est-ce qu'on entend par attaque contre la démocratie? C'est-à-dire montrer une vidéo de la quéquette d'un homme politique, est-ce que c'est une attaque contre la démocratie? On peut légitimement...
Aujourd'hui, tout le monde est monté, en tout cas la classe politique, est montée sur cette thématique-là.
Monté dans quel sens
En tout cas, a réagi, vous avez bien raison, Maître Serral, de me reprendre sur ce mot qui est tout à fait mal adapté, a réagi... Ouais. Sur cette thématique-là, finalement, mais, que c'est une attaque à la démocratie.
Oui, mais alors qui a réagi? On voit bien que le politique soutient le politique. Je le redis, en plus, entre nous, Benjamin Griveaux, bon, je ne le connais pas personnellement, mais la probabilité pour qui puisse être élu, en tout cas avant les faits, elle était quasi infinitésimale. Donc, je trouve ça assez extraordinaire qu'on a des principes quand même. On est dans un pays... a priori démocratique, c'est l'honneur de la France et des conventions internationales de prévoir ces protections quand la vie des uns et des autres est en danger à l'extérieur. Et pour une histoire de slip ou d'absence de slip, on est en train de dire que ce type-là, il mériterait qu'on le balance en Russie, qu'il aille se débrouiller avec Poutine. Je me dis que notre démocratie est quand même bien fragile. L'honneur de la démocratie, l'honneur de ce pays, c'est ça. C'est-à-dire que on devrait pouvoir faire face même à ceux qui n'aiment pas votre pays, même à ceux qui vous combattent. Mais on ne peut pas, au nom de ce prétendu principe, en disant on l'a aidé et puis quel ingrat, maintenant il se moque de telle ou telle politique. Je trouverais ça particulièrement dangereux qu'on décide demain d'accompagner cette personne aux portes de la Russie ou d'un autre pays en lui disant, bah, en gros, vous avez fait l'idiot sur le territoire français, au revoir. La protection qui est accordée par l'État français, je le redis, ça relève d'une loi interne, mais il y a des conventions internationales, est quand même une protection qui reste absolue. On ne peut pas, au motif que l'intéressé a mis en avant une vidéo et puis l'enquête déterminera dans quelles circonstances, on ne peut pas sur cette base-là renier notre principe, renier cette protection absolue et dire bah écoutez, on va le jeter au feu, qu'il se débrouille. Ça en dit long quand même sur la fragilité de notre démocratie. Moi c'est ça qui me fait peur et qui m'inquiète. Vous savez, quand on retire le statut de réfugié, encore une fois, ça reste une mesure grave, mais ça existe aussi quand on n'est pas réfugié, quand vous avez une carte de séjour, quand vous avez une carte de résidence, si vous avez tel ou tel comportement, si vous avez, si vous êtes l'auteur d'infractions, alors on va dire graves, il y a aussi des procédures qui permettent de vous retirer la carte de séjour, la carte de résidence, mais ce sont des procédures qui doivent respecter le principe du contradictoire, qui doivent respecter la loi. Et je trouve toujours désolant que des politiques, on parle pas de n'importe qui des politiques jettent au feu comme ça l'intéressé en lui disant bah puisque on l'accueille en France et il dit ce qu'il a envie de dire, encore une fois, et quand c'est pas dans le respect de la loi, il fait l'objet de poursuites, donc il peut pas être ni mieux ni moins bien logé que vous et moi. Je trouve dangereux que ces politiques-là se mettent à paniquer. Encore une fois, parce que vous avez une personne qui a montré une vidéo de... Kékette, le terme est autorisé ou pas ?
Oui, Maître Serran, à 9h12, c'est quand même une émission familiale.
Une vidéo légère.
Voilà, légère. C'est qu'elle de dire. Ouais. Bien. Alors, Maître Serran, est-ce qu'on a le temps ? Tiens, on va prendre un premier auditeur. C'est Majid qui est avec nous au 01 53 48 3000. Majid, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, allô, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Majid.
Je vous appelle. Voilà, j'ai effectué, durant la période 87-89, selon les accords franco-algériens du 11 octobre 83, mon service national en Algérie. Et j'aurais voulu savoir, compte tenu de ces 24 mois, est-ce que les trimestres seront validés ou pas ?
Oula ! Non, alors bon... Stop la question. Alors, honnêtement, j'en ai pas l'ombre d'une idée. Je vous dirais des bêtises. Faut avoir l'honnêteté quand même de reconnaître quand on a l'information ou pas. Je vous dirais des bêtises.
Vraiment, est-ce que vous pouvez vous renseigner pour la semaine prochaine?
Je peux éventuellement me renseigner.
Parce que c'est une question que beaucoup de gens doivent se poser et elle est super intéressante,
ouais,
cette question.
Il faudrait qu'ils se posent la question de savoir pourquoi ils ont été faire leur armée en Algérie. Parce que moi, j'aurais dû le faire là-bas. Vous voyez, à l'époque, notre fierté algérienne fait que je voulais pas faire mon armée en France. Sauf que quand je recevais un petit papier du consulat qui dit bonjour monsieur, il serait bon de venir nous voir. Heureusement que j'ai fait des études, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai pu y échapper et j'ai pas honte. Ouais. Donc, je vais essayer de prendre les renseignements et éventuellement la semaine prochaine, Inch'Allah, n'hésitez pas à nous appeler. Mais j'ai pas envie de vous répondre des bêtises. Hein.
Ok, alors moi, pour info, je me suis présenté au consulat de Créteil.
Ouais.
J'ai posé la question et la personne m'a dit est-ce que info intox m'a dit je pense pas puisque l'Algérie n'a jamais payé ses cotisations pour ses ressortissants auprès de la caisse des retraites françaises. Ouais. Alors info intox, je sais pas.
Mais c'est pour ça que la maître Serran va poser la question pour vous donner une info et pas une intox. Mais là c'est vrai qu'effectivement. Si on dit je ne pense pas que, c'est pas une info.
Non, c'est
ça. Voilà, il y a surtout venant du consulat.
Ouais. Oui, c'est ça qui est un peu inquiétant, puisque, bon, à la limite, on se dit que c'est peut-être l'interlocuteur privilégié pour apporter une réponse à cette question.
Tout à fait.
Ouais. Mais non, on va essayer de trouver une vraie réponse et une réponse sérieuse.
Ok, très bien. Bah, je vous remercie. Puis,
merci à vous pour votre appel et pour la question.
Merci Majid. Et puis on pourra d'ailleurs élargir la question à tous ceux qui ont fait l'armée, hein, au temps où le service militaire existait en France, et de savoir si ces trimestres-là sont considérés et comptabilisés aujourd'hui dans le droit à la retraite. Merci Majid pour votre question.
C'est moi. Merci.
À bientôt. On prendra d'autres appels dans un instant. Vous avez une question juridique à poser à Maître Serran. Je vous rappelle le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000 jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Allez, toutes vos questions juridiques à Maître Serran au standard, 01 53 48 3000 si vous voulez interroger. Alors c'est Djamila qui vous attend, Djamila en région parisienne. Bienvenue sur Beurre FM, Djamila.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Djamila.
En fait, nous on a un problème en Algérie. C'est mon mari et son père qui ont acheté la maison. Et mon mari l'a construit là-bas. Et en fait, maintenant, ils veulent ni partager, ni vendre, ni faire charité, ni rien du tout. Ils veulent, quand on s'approche de la maison, ils veulent nous frapper.
Ah.
Ouais. C'est terrible et c'est fou parce que ces histoires de maisons, de terrains achetés au pays, dans, je n'ai pas de statistiques officielles, mais dans 95% des cas, ça se termine toujours en bataille. Et c'est très particulier. Moi, ça me sidère tout le temps. Alors, vous aurez bien compris que si tout ça se passe au pays, ça ne peut être géré qu'au pays. Hein, donc, sur le territoire français, il n'y a pas un tribunal qui serait compétent. Et puis, au niveau de l'avocat, c'est la même chose. Il y a des procédures évidemment qui permettent de sortir de ce qu'on appelle l'indivision, c'est-à-dire d'obliger entre guillemets l'autre à partager, mais ce sont évidemment des procédures qui sont longues. Et puis il faudra par définition vous adresser un confrère au pays, mais entre guillemets on ne peut pas piloter ce genre de situation du territoire français. Alors ça n'interdit pas à un avocat du territoire français de jouer l'intermédiaire entre vous, éventuellement le confrère au pays, mais je crois que la meilleure chose à faire, et même sur un plan financier, ça vous coûterait beaucoup moins cher de vous adresser à un confrère sur place. Mais vous voyez, souvent des questions de cette nature nous sont posées. Je le redis, ce serait pas sérieux de ma part de laisser entendre que mes réponses seraient aussi pointues que les réponses d'un avocat sur place, vous voyez. Donc moi je peux répondre sur l'aspect juridique sur le territoire français, mais au pays il n'y a pas mieux, madame, franchement il n'y a pas mieux que de vous adresser à un confrère du pays et puis de lui exposer la situation. Compte tenu de la récurrence de la nature de ces litiges, j'imagine qu'il doit y avoir des confrères qui ont dû se spécialiser en la matière, mais c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Djamila, c'est d'aller voir un confrère sur place, de lui exposer votre situation.
J'ai peur qu'il prenne l'argent, après il n'y a rien qui derrière.
Ouais, mais alors, ça voudrait dire que... enfin, vous voyez, c'est-à-dire que quand on dit un truc pareil, ça laisserait entendre que l'avocat au pays se comporte ou se comporterait comme un escroc. C'est-à-dire qu'il y a au pays, et heureusement, il y a une déontologie aussi des avocats. Alors, est-ce que certains ont parfois eu un comportement déviant. L'Algérie n'a pas le monopole de ça. Ça existe sur le territoire français, ça existe ailleurs. Mais si vous raisonnez comme ça, vous ne ferez jamais le premier pas.
Oui,
vous savez, ça coûte rien, en dehors du montant de la consultation, on va dire, d'aller voir l'avocat et puis ça fonctionne souvent au feeling. Donc, et puis voilà, vous discutez avec lui, vous voyez un peu ce qu'il en est. Mais ce serait pas sérieux de se dire avocat entre guillemets du bled, parce que j'entends souvent cette expression, c'est des escrocs ou alors ils sont toujours en bisbille avec la partie adverse. Non, encore une fois, c'est une profession qui est organisée, y compris heureusement au pays. Il faut quand même accorder de la crédibilité aux confrères algériens qui, encore une fois, font un travail qui est sérieux. Il y a des brebis galeuses, mais ni plus ni moins que sur le territoire français ou ailleurs. Donc ne partez pas avec cette idée en tête, il vaut mieux vous renseigner, puisqu'encore une fois, vous savez,
ils m'ont dit d'aller à Dar Shalah pour voir si Freda, là,
c'est... Ouais.
Oui, pour récupérer Freda, après je ne sais pas comment...
Bah, voyez, bah voilà, le truc, c'est ça, c'est-à-dire que, je le redis, faites attention à ce qui se dit souvent, c'est le voisin, le type qui vend du lait, qui vous donne tel ou tel conseil, alors que, un, il y connaît rien d'abord en droit, deux, il connaît rien à votre affaire. Non. Il y a des avocats, il y a des juristes, donc adressez-vous à un avocat et à quelqu'un d'officiel, pas un coward du coin, et vous voyez, vous savez, si vous partez avec l'idée que, l'avocat Oblet se comporte de telle ou telle manière, malheureusement, un, vous ne prendrez jamais d'initiative, et deux, vous risquez de vous faire flouer, c'est toute la difficulté. Alors j'ai eu, des affaires qui concernaient des membres de ma famille, j'étais pas avocat à l'époque, et les membres de ma famille se sont adressés à des confrères au pays. Je suis d'accord avec vous, c'est pas la même manière de gérer le truc, mais voilà, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience qu'il faut généraliser la chose. Donc je vous invite à contacter un avocat du pays, il sera plus à même et plus compétent que moi pour vous apporter des réponses précises dans ce type de litige.
Et ça va marcher, vous croyez ça?
Si quoi?
Ça va marcher.
L'Algérie a un code de procédure civile, pénale. Il y a un code civil. Enfin voilà, c'est un état de droit. Oui, c'est pas le chaos. Et on règle pas ça comme du temps du Far West. Donc oui, il y a des tribunaux, il y a des avocats, il y a des lois à respecter, il y a des sanctions qui sont prononcées par les juridictions. Donc mais bien sûr, ça c'est terrible ce que vous êtes en train de dire parce que je l'entends très régulièrement. Souvent, on me dit, que ce soit l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie, dans ces pays-là, ça sert à rien de faire du droit. Alors, dans ce cas-là, que chacun prenne un fusil, puis on va régler ça à l'ancienne. Donc non, il ne faut pas partir avec cette fausse image. Il y a peut-être eu des mauvaises expériences de votre voisin de X ou de Y, ni plus, ni moins que sur le territoire français. Vraiment. Donc, il n'y a aucune raison, chère madame, que ça n'aboutisse pas. Donc, allez voir un confrère, vous allez parler droit et pas copinage et autres. Et puis, il vous dira très précisément quelles sont les démarches à effectuer. Donc, pas de réticence par rapport à ça, je vous assure.
Parce que dès qu'on arrive là-bas, dès qu'il nous voit, il nous voit le frapper, il frappe mon mari,
Mettez-lui un coup de pioche au type et puis après, allez régler ça tranquillement avec un avocat. Mais
un coup de pioche.
Oui, un coup de pioche.
C'est intéressant.
Voilà, un coup de pioche.
Il n'y avait pas des hommes de main sur place, Maître Serral?
Si,
d'habitude, place, vous avez toujours une ou deux personnes qui peuvent dépanner les clients.
On est d'accord. D'ailleurs, sur place, je crois que j'ai plus d'hommes de main que sur le territoire français.
Ah oui, donc.
Mais là, ça ne se fait pas quand même, si. C'est vendredi.
C'est ça ou la pioche.
Ouais. Alors, un coup de pioche. Et puis, si ça ne marche pas, vous m'appelez.
D'accord, merci.
Merci, Jamila, pour votre appel. 01-53-48-3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. Et c'est Morad qui est avec vous. Morad, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Allô, bonjour.
Bonjour, Morad.
Bonjour, Philippe. J'ai pas retenu le prénom du juriste ou de l'avocat.
Alors, appelez-le Mourad, mais je sais que Maître Serran préfère qu'on l'appelle Maître Serran. Il est un peu tatillon.
Pas de familiarité. Même quand l'intéressé s'appelle Mourad ou Mourad. C'est Mourad ou Mourad?
Non, c'est Mourad.
Bon. D'accord, moi c'est Mourad. Ah ouais, si vous étiez appelé Mourad, j'aurais été sympathique. Ouais. Mourad.
Pas de souci. Alors bonjour, Maître. On va commencer comme ça. Alors.
Allez, dites-moi, on vous écoute.
Question. Je vais essayer d'être rapide. Donc, je vous appelle c'est concernant une demande de visa que j'ai effectuée pour ma maman, qui était résidée en France. Donc, elle est maman de 8 enfants, dont 5 parents français.
J'ai D'accord. fait
la première fois de visa à court séjour. Elle est venue pendant 3 mois. Malheureusement, elle a une petite opération, donc elle a débordé de 5 jours. Après, j'ai refait une demande de visa qui a été refusée. Sous prétexte que, soi-disant, elle n'avait pas assez d'entrée financière pour pouvoir résider en France. Et le deuxième point, je ne me rappelle plus exactement le deuxième point, c'est quoi? Oui, donc problème d'argent, et ce n'était pas pour visa, parce que on avait demandé un visa pour séjour. J'ai pris un avocat, nous sommes partis au tribunal administratif et entre-temps, mon avocat m'a demandé de refaire une demande de visa long séjour en prouvant A plus B que cette maman est prise en charge par ses enfants. Nous sommes trois ici sur le point.
Ouais.
On a justifié que je lui ai envoyé de l'argent, qu'on s'occupait d'elle ici, que j'ai justifié des factures d'hôpital pour son hospitalisation quand elle était passée ici. Et malheureusement, une fois encore, le visa a été refusé. Pas pour les mêmes raisons. Donc, on a supprimé la raison. Au début, on m'avait dit que c'était pas le bon visa. Maintenant, on me dit que c'est pas suffisant. En fait, financièrement, elle n'a pas assez d'entrée financière pour pouvoir résider en France. Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Alors ça, c'était pour une demande de visa long séjour?
Long séjour, exactement.
D'accord.
Car la première fois, quand elle est venue avec un visa court séjour, et je suis parti pour essayer de refaire sa carte de résidence, on m'a dit non, elle n'a pas le bon visa. Voilà.
Donc, la première fois, elle vient avec un court séjour, elle repart, vous refaites une demande de court séjour, on lui dit non, vous refaites une demande de long séjour, et on lui dit non.
Exactement.
Bon, alors d'abord, sur un plan purement stratégique, vous imaginez bien que, à partir du moment où vous demandez un visa court séjour, et que ce visa vous est refusé, la probabilité pour qu'ensuite vous décidiez de solliciter un visa long séjour, la probabilité pour que ce soit accordé, elle est infinitésimale. À partir du moment où la France ne veut pas d'une personne sur une durée très courte, il n'y a aucune raison que les autorités consulaires disent oui, ok, on va accorder un visa long séjour. Donc déjà, stratégiquement, le conseil, entre guillemets, de l'avocat qui vous êtes en train de contester et qui dit solliciter un visa long séjour me semble, moi, tiré par les cheveux. Après, la difficulté, c'est que quand vous êtes blacklisté, on va dire, alors pardon pour le terme qui peut être grave, mais ça ressemble un peu à ça, par les autorités consulaires, il est rare que le consulat, comme ça, tout seul, spontanément, si vous faites une deuxième, troisième, quatrième demande de visa, long ou court, peu importe, il est rare que le consulat dise « oui, ok, on va faire confiance cette fois-ci ». Alors, est-ce qu'ils ont, entre guillemets, ils vous ont sanctionné parce que votre maman avait, à la suite de l'opération, donc s'était maintenue encore quelques jours? Souvent, c'est ce genre de petits détails qui fait que... est-ce que vous aviez à l'époque prévenu les autorités en disant le visa va se terminer, mais il y a une circonstance exceptionnelle qui fait que...
Exactement, je suis parti à la préfecture de Ivry où on n'a pas voulu me prolonger quoi que ce soit, donc ouais. Ils n'ont pas pu me prolonger. Mais je voulais simplement ajouter une information très importante à mon avis, c'est qu'elle perçoit une retraite française, elle perçoit une retraite ici en France et elle est quand même parent donc pas français.
Alors, de manière très objective, mais j'insistais quand même sur cette histoire de refus de visa parce que je le redis, parfois. Vous allez sur le territoire français pour une raison X ou Y, justifiée ou pas, mais pour votre maman c'est justifié, elle prolonge. Les autorités françaises ont dû la prendre en grippe. Voyez, donc il y a aussi cet aspect-là. Maintenant, de ce que vous me dites sur la situation de votre maman, cette histoire de retraite, le fait que parmi les frères et sœurs, certains sont de nationalité française, évidemment, vous avez quand même des éléments plus que sérieux pour lui permettre d'obtenir un visa long séjour. Elle est seule au pays, c'est ce qu'on comprend.
Oui, elle est seule.
Bon,
oui.
Il est certain, monsieur, il est certain que ça va être refusé. C'est-à-dire que ce serait pas sérieux de vous dire, écoutez, qu'elle formalise une nouvelle demande, la France va changer d'avis. Elle est entre guillemets blacklistée, donc ça va être refusé. Donc c'est un dossier qui ne sera gagnable, même pas, et c'est peu probable devant la commission de recours contre les refus de visa, mais qui ne pourrait être gagnable que devant un tribunal administratif. Alors, en mettant en avant, mais mon confrère vous le dira probablement aussi bien que moi, en mettant en avant le fait que votre maman est isolée au pays, en mettant en avant qu'elle est déjà venue et qu'ensuite on lui a refusé, mais vous avez une bonne excuse, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade ou qui a une opération, voilà, on appelle ça en droit un cas de force majeure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas restée pour faire du shopping.
Exactement.
Donc un tribunal peut ou pourrait être sensible à ça. Il faut faire attention, encore une fois, je disais sur un plan purement stratégique.
Excusez-moi, concernant la requête que j'ai faite au tribunal, parmi la défense en fait, la partie adverse, la partie adverse n'a mis en valeur deux éléments uniquement. Le fait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour vivre en France. Et le deuxième point, c'était qu'on n'avait pas fait le bon visa, qu'on n'avait pas fait la bonne demande.
Non, mais alors ça, c'est du droit. C'est-à-dire que si, effectivement, la demande initiale ne permet pas d'obtenir un visa long séjour sur le territoire français, ça s'entend et ça se comprend.
Dans leurs écrits, à aucun moment ils ont mis en valeur le fait qu'elle avait dépassé.
Mais c'est tant mieux. Mais vous imaginez bien que, voilà, il faut pas être dans le complotisme et dire que tout se trame et tout se cache. Mais il y a forcément une incidence concernant cet aspect-là. Donc pour s'en prémunir, c'est toujours bien de faire un peu l'historique de la présence de votre maman sur le territoire français, d'expliquer qu'effectivement, bon, il s'est passé ça, mais je justifie que c'est toujours bien. Ça permet de fermer déjà la porte à un éventuel argument qui pourrait être avancé par les uns et les autres. Après, je vous dis, il y a une logique en la matière. Alors, l'histoire de, elle a pas suffisamment de revenus. Si vous arrivez à déterminer que les enfants vont prendre en charge les dépenses concernant l'intéressé, c'est un contre-argument. Vous voyez, c'est-à-dire que le raisonnement étant de dire, on veut pas qu'elle soit un poids les finances françaises.
Excusez-moi, mais c'est quoi les minima dans ce cas-là?
Il faudrait, pour avoir ça en tête, il faudrait d'abord qu'on considère que cette femme peut être logée, manger, s'habiller et faire ce qu'elle a à faire sans toquer à la porte de l'État. Donc totalement autonome. Mais on peut parler de 1500, 1400 euros, vous voyez, si les enfants peuvent dire et assurer que voilà, on est plusieurs et puis il y a X qui verse tant et ainsi de suite, et ce qui fait un petit revenu de temps par mois, ça c'est jouable pour la construction d'un dossier. Ce que ne souhaite pas l'autorité française, mais je l'entends, je le comprends, c'est la personne rentre, ensuite elle finit par être à la charge de l'État.
D'accord. Donc vous me conseillez clairement de faire un recours devant le tribunal administratif.
Mais là, vous avez eu déjà la première décision du tribunal administratif ou pas ?
Toujours pas.
Non, mais alors il vaut mieux attendre, ça sert à rien de cumuler les procédures. L'administration en face, elle est encore plus chiante. Donc elle dira que tant qu'une procédure n'a pas abouti, selon moi, stratégiquement, ça sert à rien, hein, franchement.
Le problème, c'est qu'on fait des recours, on n'a pas de réponse. On va au tribunal, on n'a pas de réponse. Honnêtement,
ouais, mais après, il faut voir ça avec votre avocat. C'est-à-dire que techniquement, je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure, mais il y a toujours la possibilité pour l'avocat d'inviter le tribunal à rendre sa décision quand même. Hein. Donc, il faut que l'avocat se bouge un peu.
Voilà, Mourad, merci pour votre question. D'autres appels dans un instant. Vous souhaitez interroger Maître Serran, vous nous appelez pendant la pause au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et tous ceux qui ne souhaitent pas passer à l'antenne avec Maître Serran, il y en a, vous pouvez l'appeler sur son numéro de téléphone de portable qui s'affiche à la fois sur votre écran
et
que Maître Serran vous communique.
Bah oui, 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Samira vous appelle, Maître Serran. Samira, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Bonjour Samira.
Oui, je me permets de vous appeler pour avoir un petit renseignement. J'ai ma sœur qui est née en 1963 en Algérie, qui est venue à l'âge de 7 ans, qui a fait ses études en France, qui a eu sa carte de séjour de 10 ans. Et ensuite, elle s'est mariée en Algérie. Et quand elle est partie se marier en Algérie, à cette époque-là, ils déposaient les cartes de séjour. À savoir qu'on est 9 enfants, on est tous de nationalité française, on habite en France. Et ma sœur, celle qui vit en Algérie, elle a une fille qui a 32 ans. Elle était venue à l'époque et elle avait accouché en France. Sa fille a fait sa vie en France, elle est mariée, elle est maman. Et ma sœur vient récemment, après 27 ans de demande de visa, à chaque fois de visa court séjour pour des vacances, elle vient récemment d'avoir son visa. Donc là, actuellement, elle est en France. Et ma demande est la suivante. Est-ce qu'elle aimerait bien avoir sa carte pour faire des allers-retours pour venir? Pourquoi? Parce que quand on a eu maman qui a eu un AIT, elle n'a pas pu être là. Quand on a perdu notre neveu, elle n'a pas pu être là. C'est pas pour venir s'installer ici, c'est pour faciliter, éviter de faire des visas. Là, ça fait 27 ans qu'elle demandait, mais pas tous les ans. Hein. Elle a dû demander en 27 ans, trois fois, ça a été refusé. Là,
qu'est-ce qui était invoqué? Vous avez une idée? Pourquoi on lui refusait?
À l'époque, ça avait été refusé parce qu'il y avait son conjoint qui faisait la demande de visa avec elle. Et là, subitement, cette année, elle a fait la demande de visa toute seule pour venir voir toute la famille, parce qu'il y a des neveux et nièces qu'elle ne connaît pas. Et ça a été accepté. Donc, et c'est vrai que la machine est assez lourde dans la mesure où elle a fait sa demande de visa. Ça a duré quand même à peu près 3 mois, quoi.
Ouais, donc, mais alors, je comprends parce que ce que vous êtes en train d'évoquer, souvent on a des gens qui nous disent j'aimerais pouvoir faire des allers-retours tranquillement et puis pas avoir à solliciter systématiquement un visa. On peut l'entendre et le comprendre. Après, il n'y a pas un texte qui dirait que dans telle situation, ça va être automatique et puis on va accorder ou permettre à l'intéressé, pour des raisons de commodité que je peux comprendre et entendre, mais il n'y a pas un texte qui prévoit ou prévoirait ça, une sorte de sur-mesure pour faciliter ceux qui veulent faire des allers-retours. C'est toute la difficulté, mais vous comprenez bien que moi, je peux aussi entendre ce raisonnement. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous savez, souvent, le texte qui constitue une exception, on l'élargit tellement qu'on veut en faire un principe. Le principe... Non, oui.
Parce que j'allais dire, c'est qu'elle a encore en plus de ça son permis de conduire. Donc, elle a son permis de conduire, elle a la photocopie de son ancienne carte de séjour.
Ouais, mais
madame, elle a un numéro de sécurité sociale.
J'entends bien. Alors, elle a.
Les gens dans les couloirs disent un peu tout et n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui.
Alors, elle a effectivement des éléments qui permettraient, comme dirait l'autre, de justifier un visa. Mais il n'y a pas, alors c'est pas le bon terme, mais il n'y aurait pas, entre guillemets, une sorte de passe-droit pour dire, bah, compte tenu de ce que vous êtes en train de me dire, qu'elle était sur le territoire français, qu'elle a un permis et autres, il n'y a pas d'élément qui viendrait faciliter la situation par rapport à ça. Il y a un contexte. À un moment, votre sœur a décidé de s'installer dans un pays autre que la France. Et souvent, on a ça, c'est-à-dire qu'après X années, on revient en disant, oui, mais à l'époque, j'avais ce... Oui, à l'époque, mais à partir du moment où volontairement vous décidez de ce choix de vie, et c'est légitime, et ça, je peux l'entendre et le comprendre, vous repartez en quelque sorte à zéro. Il n'y a pas un texte qui dirait, on va mettre en avant le passé pour lui permettre de... Donc, il n'y a pas de différence entre votre sœur et une personne qui serait jamais venue sur le territoire français et qui, demain, dit « j'aimerais bien visiter la France ».
Le fait qu'elle ait sa fille qui vit ici, qu'elle est toute... Nous, on est 9 enfants, donc on est 8 à vivre en France.
Elle est mariée, elle a...
Oui, elle est mariée. Ouais, là-bas, elle a 2 enfants qui sont mariés.
Voilà, vous répondez vous-même à la question. Vous voyez, le truc, c'est ça.
Elle a une fille qui est mariée.
Oui, mais voilà. Donc, elle a une fille qui est mariée, qui est une entité autonome. Donc oui, elle peut venir voir sa fille peut aller la voir, mais parce que je comprends le sens de votre question en disant, mais dans cette situation, est-ce qu'il y aura une sorte d'exception?
Voilà, moi ma problématique c'était le délai. Là, quand on a eu la maman qui a eu son AIP, ça a été dur.
Non, mais bien
sûr. On a eu le neveu qui est décédé. C'est des moments, parce qu'elle elle veut pas venir vivre en France.
J'entends bien.
Voilà. Et là, la preuve, elle repart. Elle a eu son visa d'un mois. Elle reste que 28 jours.
Ouais. Donc, non, mais elle a raison, voilà. Parce que sinon, pareil, ils vont la mettre aux oubliettes. Non, j'entends et je comprends ce que vous dites. Voilà. Mais
comme on entend des gens, il y a des gens qui ont vécu cette situation, qui arrêtent pas de parler de certificat de coutume ou je sais pas trop quoi, qu'il faut faire dans la mesure où elle a toujours la photocopie de son ancienne carte de séjour.
Non, et qu'elle d'accord. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. L'ancienne carte de séjour. Par définition, elle est ancienne. Voilà, la France lui a donné une carte de séjour. À un moment, la personne, on la braque pas pour lui dire rendez-moi votre carte de séjour. Les circonstances de la vie font que, bon, classe, après, on repart entre guillemets à zéro. Je peux comprendre que ce soit frustrant. Ça, je peux l'entendre et le comprendre. Mais j'ai du mal aussi à comprendre quand on a des gens, pareil, j'en vois au cabinet, qui sont offusqués en disant, mais je comprends pas, j'étais en France il y a X années, j'ai rendu ma carte et puis maintenant la France veut pas de moi. Bah oui, donc faut repartir à zéro.
Oui, non, là, elle a fait juste une demande de visa à court séjour. Hein. Elle a pas fait de demande.
Eh ben, vaut mieux qu'elle reste là-dessus. Que soit, hein. Ouais, parce qu'il risque de lui refuser même un visa court séjour. Faut faire attention à ça. Hein.
D'accord. Ok. D'accord.
Voilà.
Je vous remercie pour ces informations.
Merci à vous, Samira.
Merci, Samira.
Au revoir.
Yasmine, bonjour et bienvenue sur Beurre FM, Yasmine.
Bonjour. Oui, bonjour, maître, je vous appelle. Vous allez bien?
Bien, Yasmine, je vous remercie. C'est gentil de commencer comme ça.
Voilà, ouais. Déjà, ça va être...
Et vous, Yasmine, est-ce que vous allez bien?
Ça va.
Bon,
il y a du soleil, on va dire que ça va.
Bon, bah voilà, allez, on commence avec une bonne journée. Alors, dites-moi, quel est votre problème?
Voilà, j'aurais une petite question. J'ai mon beau-père qui est résident retraité, donc qui a une résidence.
Oui.
Donc, qui est d'origine algérienne. Et il aimerait, en fait, régulariser la situation de son épouse, ma belle-mère.
Ouais.
Et en préfecture, ils disent qu'il faut faire un regroupement familial.
Ouais.
Alors, d'où ma question, c'est que est-ce qu'il faut repasser par ce système-là de regroupement familial ou est-ce que il y a un autre
votre papa s'est remarié au pays?
Non, mon beau-père, il a toujours été marié il s'est marié en Algérie, a vécu un certain temps en France,
ouais.
lui seul.
Ouais.
Sa femme étant en Algérie.
D'accord. Enfin voilà, donc madame est au pays.
Alors madame, en France, elle fait des visas.
Voilà. Alors si madame est au pays, si effectivement en dehors des visas pour venir voir l'intéressé ou voir la famille, si madame souhaite rester et s'installer sur le territoire français, oui, on est dans le cadre d'un regroupement familial.
D'accord.
Procédure classique du regroupement familial. Le timing est toujours long en la matière, entre le moment où vous déposez le dossier et le moment où ça commence à bouger. Donc, il ne faudrait pas être impatient de la longueur de cette procédure. Mais on est effectivement, quand on vous dit que c'est le regroupement familial, on est pile poil dans le cadre du regroupement familial.
Oui, parce qu'elle a aucun souci. Dès qu'elle va faire sa demande de visa avec les papiers de son mari, elle a des visas de longue durée tout le temps, à chaque demande.
Bah, ça, c'est important. Voyez, le fait d'avoir un bon dossier, on va dire, un bon passé, quand vous avez toujours respecté à la lettre le timing du visa, les autorités françaises...
Elle rentre même avant.
Eh bien, ça, c'est important, puisque, évidemment, ça va plaider en sa faveur. Mais on est dans le cadre d'un visa long séjour.
Oui. Elle a toujours. On lui accorde 6 mois. Des fois, une fois, on lui a accordé 1 an, mais elle reste 2 mois. Elle repart. Donc, je veux dire, pour ça, elle est régulière. C'est pas le souci. Mais c'est moi. J'ai voulu les aider. Mais vos parents ont sachant si elle pouvait pas avoir un titre comme son mari, en fait.
Madame, le titre comme son mari, c'est un titre qui lui sera accordé, mais encore une fois, dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
D'accord.
A priori, les conditions sont réunies de ce que vous êtes en train de me dire. Mais ce titre dont vous parlez, elle ne l'aura qu'à l'issue de cette procédure.
Il faut faire cette procédure.
Alors, certaines personnes font quoi? Elles arrivent sur le territoire français et on essaie de mettre l'administration devant le fait accompli, c'est-à-dire de dire organisons un regroupement familial du territoire français.
Non, du tout. Elle, au contraire, elle est là actuellement, elle est au pays. Et elle me dit, moi, je veux rien risquer.
Eh ben, elle a raison.
Renseigne-toi pour moi.
Elle a raison.
Et s'il y a moyen, après, je ferai mes démarches en
France. Alors oui, mais les démarches
se font. Et moi, je vais montrer quand il faudra.
Ah, c'est ça. Donc, elle a raison, parce que c'est vrai, ceux qui font ça, entre guillemets, jouent les pénibles avec les autorités françaises qui finissent par s'en souvenir.
Ouais.
Donc, idéalement, oui, le regroupement familial se fait du territoire. La procédure est longue. Mais il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas aboutir de ce que vous êtes en train de me dire.
Oui, parce qu'en fait, elle, c'est plus pour accompagner son mari avec l'âge, quoi. Maintenant, ils ont besoin d'être plus souvent ensemble,
ouais.
On va dire.
Enfin, le mari peut aller aussi s'installer au pays si il a un certain âge.
Il est sur place, hein. Il est sur place régulièrement.
Bon,
il vient régulièrement se soigner parce que, bien sûr, la maladie est là.
Ouais.
Voilà. C'est dans ce sens-là, monsieur. En fait.
Non, mais j'entends bien, c'est pour vous taquiner, vous embêter. Mais j'ai bien compris.
Non, vous n'embêtez pas, vous êtes tellement clair en radio que là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé.
Écoutez, ça nous fait plaisir.
Vous avez une nouvelle cousine, maître Serran. La cousine Yasmine.
Oui, il n'y a pas de souci.
Bon, en tout cas, merci.
En tout cas, que ce soit la radio Beurre FM ou maître Serran, vous avez toujours de bons conseils. Donc, continuez comme ça, quoi.
Oh, ben merci, Frangine. Ouais, j'ai demandé à ma soeur de m'appeler, merci. À bientôt, Inch'Allah. Bon courage.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Merci, Yasmine. Alors là, on a très peu de temps. Il nous reste 2 minutes, je pense. Ah non, on a 5 minutes. 5 minutes, c'est ce qui nous reste en vrai. Alors 5 minutes, ça rentre pour Tariq qui est avec nous. Tariq, bonjour et bienvenue.
Allô, salam alaikum.
Malikoum salam. Tariq, vous avez 5 minutes avec Maître Serhan et pas une seconde de plus. On y va, on est parti.
C'est pour ma mère, en fait. Il est au Maroc. Mon père, il a décédé. Et nous, on est 5 frères. Il y a 3 ici et 2 en étalé. Et en fait, il avait une carte séjour qu'il a pris en étalé. Mais c'est ma petite sœur qui l'a pris. Elle avait la nationalité italienne. Mais ma sœur, il a déménagé ici en France. Est-ce qu'il a le droit de prendre une carte séjour française ou pas?
Alors, sur le principe, encore une fois, parce que souvent, quand on me dit est-ce qu'on a le droit de, on a l'impression, si je vous dis oui, on a le droit, que c'est acquis, qu'il n'y a pas de difficulté. Ouais. Il n'est pas interdit de faire la procédure. Je rappelle quand même, il y a un grand principe qui ne concerne pas que la France, hein, qui concerne tous les pays, c'est que moi, État français, je délivre mes titres, ma carte, j'allais presque dire, ou ma nationalité française, si j'ai envie de le faire. Alors, c'est pas, on a le droit de contester quand on a un refus, quand on n'est pas d'accord avec l'administration, et c'est l'honneur de ce pays. Encore une fois, il y a des avocats, il y a des magistrats. Mais pour répondre à votre question, oui, elle a le droit de demander. Maintenant, si dans votre esprit, c'est est-ce que c'est certain qu'elle va l'obtenir, voyez, la réponse est tout autre. Mais elle a le droit, bien sûr, il n'y a rien qui interdit, et heureusement, de formaliser telle ou telle demande. Alors, faut pas le faire à la légère non plus. Vous voyez, il y a des conditions à réunir. Parce qu'un dossier qui serait pris comme ça à la légère, même si on vous refuse la première fois et le lendemain, vous dites, bon, la prochaine fois, je dépose un dossier, il va être carré. Il y aura déjà un antécédent. C'est-à-dire, sur informatique, on dira déjà, attendez, voilà, cette personne n'est pas sérieuse. Donc, elle a le droit. Pour autant, il faut toujours préparer ses dossiers et blinder ses arguments. Maintenant, c'est pas parce qu'elle a le droit de faire la demande que l'État français va forcément dire oui.
Ok.
Mais il faut le tenter, évidemment.
Retraite au Maroc. Même s'il a une petite retraite au Maroc, il touche une retraite au Maroc, mon père. Donc, il touche tout le moins de la retraite.
Ce qu'il faut, c'est établir que votre maman est totalement isolée, que les enfants, peut-être certains de nationalité française, sont tous sur le territoire. Enfin, voilà, il y a ce genre d'argument. Ce ne serait pas sérieux de dire que la France est totalement insensible à tout ça. La France fait aussi cet effort-là, il faut aussi le reconnaître. Vous voyez, je passe très souvent mon temps à critiquer les autorités françaises, mais quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut le dire, et la France fait quand même cet effort-là.
Ok.
Voilà, M. Tariq.
Merci beaucoup.
Tariq. C'est moi qui vous remercie pour votre question. À bientôt, Tariq. Maître Serhan, on rappelle le numéro de téléphone auquel les auditeurs peuvent vous appeler s'ils n'ont pas pu intervenir ce matin, ou s'ils veulent vous parler comme ça en secret, peut-être.
Ah, c'est aussi possible. Alors, dans ce cas-là, vos secrets au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Maître Serhan, rendez-vous vendredi prochain. Dans un instant, l'islam au présent. On attend Kamel Chekat, qui sera notre invité. Il sera peut-être en retard. Et en tout cas, on l'attend. À tout de suite.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.